Pop, ça veut dire quoi pop? C'est le dernier boys band, c'est les Beatles, c'est Garfield, c'est Game of Thrones, c'est tout n'importe quoi, vous me direz. Mais pop en anglais, c'est d'abord une onomatopée. Ça explose, ça surgit, c'est un bruit. Pop. Pop, quand on débouche une bouteille de champagne, pop, ça pétille, ça saute, ça sautille. Mais pop, c'est aussi le bruit d'un ballon qui éclate ou d'une ampoule qui grille. Puis c'est une action, pop, plutôt plein d'actions. En anglais, c'est faire un saut dans un endroit, c'est fourrer quelque chose dans quelque chose d'autre. Et puis c'est prendre des médocs aussi, des petits comprimés pour se droguer. Il a tellement de sens, ce mot pop, il est tellement populaire en anglais qu'on en abuse volontiers. Ça veut tout et rien dire, avoir du succès, être populaire, mais aussi venir du peuple, de la rue, de la masse, ce qui n'est pas exactement la même chose. C'est vraiment un mot fourre-tout, pop, vous allez me dire. Mais il a l'avantage, c'est important, de ne jamais rester figé. Et vous aurez beau vous pincer le nez en disant le pop, la pop, mais qu'est-ce que ça veut dire pop? Pourquoi encore l'employer? Ben, je vous répondrai que ce mot, en fait, par sa multitude de sens, par ses usages riches et variés, par son statut d'onomatopée, il porte toujours en lui le mouvement, la surprise et la défiance. Ça, faut jamais l'oublier.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui est-il pop? Lui qui, à bien des égards, est une des incarnations les plus emblématiques de la pop culture. Dans les années 80, il a révolutionné le monde du comics et l'univers du super-héros avec sa série Watchmen. Il est aussi le scénariste de plusieurs Batman, de V pour Vendetta, de From Hell, adapté par la suite au cinéma. Mais c'est pour un roman que je le reçois aujourd'hui, son roman Monde, son roman Somme, son chef-d'œuvre de plus de 1200 pages, traduit enfin en français par l'inimitable Claro, et où il raconte l'histoire de sa ville, de Northampton en Angleterre, un voyage expérimental dans le temps, dans l'espace, porté par une langue pleine de fantaisie, de folie, de génie. Bonjour, Alan Moore.
Hi.
Merci beaucoup de nous recevoir. Avant toute chose, je vous pose la question, parce que vous êtes l'un des mythes vivants de ce qu'on appelle peut-être à tort la pop culture. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la pop culture? Est-ce que ça a un sens au moins?
Well, I suppose that you'd have to say that historically,
je pense que sur le plan historique, il y a peut-être un problème en mettant ces deux mots ensemble, populaire et ce que l'on considérait à l'époque comme la culture. Tout ça a changé, du moins de mon point de vue, tout à fait au début des années 60, avec l'ascension des Beatles. En tant que garçon de la classe ouvrière qui a grandi à Northampton, c'était une révélation, parce que ça semblait dire que les gens qui grandissaient dans des quartiers de la classe ouvrière de Liverpool ou partout ailleurs dans le pays, pouvaient devenir des parties estimables de la culture. Soudain, il n'y avait plus de limites. Une personne ordinaire pouvait y arriver. Et ça, ça a été la qualité libératrice de la culture pop pour moi.
Je vous ai souvent entendu dire que le 21e siècle n'était pas parvenu à inventer sa propre culture. Alan Moore, qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Après s'être précipité à travers les années 50 avec ses voitures aux ailerons de requin et à travers les années 60, les années 70, avec tous ces merveilleux films de science-fiction et nos aspirations à ce que le genre humain allait devenir à l'avenir, eh bien, quand nous en sommes parvenus aux années 1990, nous avons commencé à voir cet avenir se manifester autour de nous. Ce n'était pas du tout l'avenir auquel on s'attendait, que l'on espérait. Il n'y avait pas de costume avec des petites fusées dans le dos. Mais à la place, il y avait ce nouveau médium envahissant qui transformait la société de façon qu'on ne pouvait pas imaginer précédemment. Et je pense que ce qui s'est passé, c'est que la culture s'est gelée sur place. Elle avait peur, la culture. Elle avait peur du siècle qui s'ouvrait devant elle. Et elle a décidé, simplement, de réimaginer, de refaire partir la culture du siècle au sein duquel elle était à l'aise. Ce qui signifie que maintenant, après des séries de mouvements musicaux énergiques et de culture jeune qui allaient de l'ère psychédélique au punk et à toutes ces autres choses qui les ont suivies, on pouvait s'attendre à une contre-culture qui naissait tous les 3 ans. Et puis là, soudain, à partir des années 1990, avec la fin de la culture dance, on attendait une nouvelle culture. Et à la place, on a eu le Britpop, qui était une ressucée des riffs de guitare des années 60 et des années 70, alors que je pense que le 21e siècle doit avoir sa propre culture.
Mais vous, précisément, dans les années 80, en ce qui concerne votre art, qu'est-ce que vous avez inventé avec une série comme Watchmen, par exemple?
Dans les années 80, ce que je faisais, c'était de pénétrer un monde où, disons, à part la France, la BD n'était pas respectée de quelque manière que ce soit. Et pourtant, il me semblait qu'il y avait des possibilités dans la BD qui n'avaient jamais été explorées, qui fourniraient une façon d'articuler les réalités modernes d'une manière que la littérature et le cinéma avaient échoué à faire. Watchmen était un outil pour ces idées-là. Et ça m'a permis de mettre en avant toutes les capacités de la BD, les niveaux de narration, les niveaux de sens. C'était ce que j'avais l'intention de faire.
Mais l'ironie, Alan Moore, c'est que 30 ans plus tard, vos super-héros, les figures que vous avez créées, elles sont toujours là, elles perdurent à travers vos albums qui sont réédités, à travers les adaptations de vos œuvres au cinéma. Et ces adaptations, je crois que vous les aimez pas beaucoup. Qu'est-ce qui vous gêne, d'un point de vue autant artistique que politique, peut-être ?
D'un point de vue personnel et esthétique, mon objection principale à toutes les adaptations de mon œuvre, dont je n'ai vu aucune d'ailleurs en passant, je préfère critiquer les choses d'une position d'ignorance totale. Mais mon objection principale sur le plan esthétique, c'est que c'était des objets qui ont été créés totalement pour montrer ce que la BD était capable de faire et ce que d'autres médias étaient incapables de faire. Donc le fait que quelqu'un puisse réaliser un film à partir de ces objets, ce n'est pas vraiment possible, parce que ça ne ferait pas passer quelque partie que ce soit du narratif original qui m'intéressait. C'est mon point de vue. C'est pourquoi je n'ai vu aucun film.
Watchmen, one of us died tonight. An attack on one is an attack on all of us.
Watchmen are over.
No. Appelle-moi V.
Ils sont les Anonymous. Les anonymes, leur idée initiale, défendre la liberté des citoyens sur Internet. Leur masque symbolise cet anonymat qu'ils veulent préserver. Ils s'inspirent d'une BD adaptée au cinéma sous le titre V comme Vendetta.
Vendetta.
Une prostituée a été assassinée ce soir à George Yard.
L'affaire la plus épouvantable de toute l'histoire du crime.
From hell.
Jack l'éventreur n'est pas fini.
Ils sont l'ultime espoir du monde. Chacun d'eux est une légende.
Parfait.
Chacun d'eux est un prodige. Chacun d'eux est membre de la Ligue. La Ligue des gentlemen extraordinaires.
Ce qui est intéressant, c'est que dans les années 80, votre façon d'envisager la pop culture, c'était aussi, vous le dites, hein, sous un angle politique. Vous utilisiez vos histoires pour interroger, pour dénoncer la domination des classes, le péril écologique, la bipolarité du monde. Est-ce que vous diriez que la culture aujourd'hui s'est dépolitisée ?
Je crois que la politique, la culture et le sens lui-même sont probablement en désarroi à notre époque chaotique où l'information est déversée sans contrôle et où les gens ne sont pas tout à fait certains de ce qu'est la réalité. Mais prenons par exemple V pour Vendetta. Lorsque ça a été créé, c'était une réaction spécifique à ce qui se passait en Angleterre au tout début des années 80, lorsqu'on avait Madame Thatcher au sommet de son impopularité, lorsqu'elle déclenchait des émeutes contre sa politique à travers Londres et à travers la plus grande partie du pays. Les organisations fascistes en Angleterre de l'époque étaient en progression. Et tout cela faisait partie de la vision sociale qui était présentée dans V comme Vendetta. Lorsque le film a été réalisé à partir de cet objet, ça reprenait l'iconographie de V pour Vendetta et certaines de ses histoires. Mais cela semblait être une réinterprétation comme une parabole de ce qui se passait après le 11 septembre en Amérique, la montée des néoconservateurs, ce qui, pour moi, me semblait être très hypocrite. Parce que si vous voulez vraiment manifester en tant que scénariste américain, si vous voulez manifester contre quelque chose qui se passe chez vous, alors pourquoi ne pas le faire dans votre pays ?
Vous vous êtes senti dépossédé ?
À ce moment-là, je sentais que je n'étais plus propriétaire de V pour Vendetta. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que c'était plus l'œuvre d'art que j'avais créée. On se sent dépossédé.
Comment est née votre conscience politique, Alan Moore, qui est au cœur de votre travail?
Je suis né dans une famille de la classe ouvrière, dans un des quartiers les plus défavorisés de Northampton, ce qui ne me gênait pas du tout. Moi, j'ai beaucoup aimé grandir dans ce quartier. Mais quand j'ai été sélectionné pour aller suivre des études secondaires, j'ai soudain découvert l'existence de la classe moyenne, une existence que je ne suspectais absolument pas précédemment. Je pensais avant qu'il y avait fondamentalement des gens comme moi, ma famille, mes voisins, et puis il y avait la reine. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait tout un éventail entre ces deux extrêmes. Mais bon, je m'en suis rendu compte assez rapidement quand je suis arrivé au lycée. Le système secondaire était destiné à écrémer les membres les plus intelligents de la classe ouvrière et de leur donner une occasion d'aspirer à appartenir à un groupe social plus élevé, plutôt que de pouvoir revenir et aider la communauté dont ils provenaient. Voilà, on allait leur donner un petit coup de pouce pour monter l'échelle sociale. Mais ça ne m'irait jamais. Et puis, à peu près à cette époque, à la fin des années 60, au début des années 70, il y a eu une extraordinaire explosion de nouvelles idées politiques. En fait, elles me semblaient nouvelles à moi.
C'est passionnant parce que ce regard politique, cette conscience de classe, ils sont pas absents de votre roman Jérusalem. Vous écrivez « La pauvreté était intemporelle et on pouvait se reposer sur elle. Elle n'était jamais démodée. » Page 160. Un monde sans pauvreté, Alan Moore, vous croyez que c'est possible, vous ?
Oui, je crois. Je crois qu'un monde sans pauvreté est éminemment possible. Toutefois, il faudrait avoir la volonté d'y arriver. Moi, je vois beaucoup de gens qui commencent à exiger un salaire national universel. Qu'est-ce qui se passerait si on donnait suffisamment aux gens pour qu'ils puissent vivre ? Immédiatement, ça améliorerait la santé de la population. Il n'y a aucune raison pour laquelle le monde ne pourrait pas soutenir une population de 7 milliards d'habitants pour que tout le monde ait suffisamment à manger. Mais ce qui n'est pas soutenable, c'est cette toute petite minorité qui possède des montants obscènes de richesses qu'ils enferment dans des coffres et qui ne circulent pas. Ça, c'est insoutenable. Si on n'avait pas ça, alors à ce moment-là, oui, on pourrait mettre fin à la pauvreté, mais on ne peut pas avoir les deux choses en même temps.
Alan Moore, invité exceptionnel de Boomerang pour la sortie de son roman Jérusalem, roman de plus de 1200 pages, que vous avez mis 10 ans à écrire, 10 ans c'est long. On parlait de temporalité, hein. Est-ce que ça vous fait peur le temps ?
Je n'ai pas du tout peur du temps après Jérusalem. Jérusalem a été écrit en partie pour aider les gens avec cette peur paralysante, écrasante du temps, de la perte, de la mort.
Il vous arrive de vous sentir immortel ?
Je sens que Chaque particule de notre existence est immortelle et éternelle. Je sens que chaque moment est éternel. Ça a été un des points de départ pour Jérusalem. Borges l'utilise pour décrire un moment unique dans Fiction, je crois, le recueil de nouvelles de Georges-Louis Borges. Mais cette notion, qui me semble être parfaitement en accord avec les idées d'Albert Einstein, ça, c'est l'idée centrale de Jérusalem, le fait que partout, tout le monde est un être éternel, un phénomène éternel.
Jérusalem, l'histoire de cette ville qui s'étend sur plusieurs siècles, du 4e siècle à aujourd'hui, rien que ça, cette ville, c'est Northampton, vous y êtes né il y a plus de 60 ans, et en nommant votre livre Jérusalem, vous en faites une ville sainte, pour ne pas dire une ville sacrée, le berceau d'une civilisation, aussi une ville symbole. De quoi Northampton est-il le symbole pour vous ?
Dans Jérusalem, je parle principalement du tout petit quartier de Northampton, qui s'appelle le Boroughs, qui à l'origine était l'intégralité de la ville à l'époque des Saxons. C'était ça, la ville. Je pense que, en parlant de cette partie-là que je connais très bien et qui a beaucoup d'histoire inscrite en elle-même, j'allais parler de tous les quartiers, parce que, à travers le monde, quelle que soit la culture dans laquelle nous vivons, je suis absolument certain que là, au coin de la rue, il y aura un quartier comme les Boroughs, d'une manière ou d'une autre, habité par des pauvres. Et donc, en étant extrêmement spécifique sur Boroughs, j'ai pensé être universel et de dire que tous les quartiers comme cela sont des cités célestes et éternelles.
Sauf que c'est le titre, Jérusalem, d'un poème de William Blake auquel vous rendez hommage et qui est devenu l'un des airs patriotiques de la Grande-Bretagne. Qu'est-ce que vous nous dites sur l'Angleterre d'aujourd'hui ?
Sur l'Angleterre d'aujourd'hui, je dis que nous devons réfléchir à quatre dimensions. Il faut regarder au-delà de cette fine gaze temporelle que nous appelons le présent. Il faut se rendre compte que cela fait partie d'un continuum, que l'avenir est déjà écrit, que le passé est toujours là, et que ce moment est informé par toute l'histoire qui s'est déroulée auparavant et grandit pour prendre la nouvelle forme de l'histoire qui va venir ensuite. Il faut se rendre compte que tout cela, dans un certain sens pour nous, est passager, mais que, dans le sens cosmologique plus large, tout cela est loin d'être passager. C'est éternel. C'est la façon dont le drame humain, en tout cas, c'est là où nous en sommes dans ce drame humain. Nous allons voir ce que les actes à venir ont à nous offrir, mais sont déjà écrits.
On va reparler d'histoire, d'éternité et d'écriture à Alan Moore juste après. Un morceau d'Angleterre, tiens, les Rolling Stones, leur chanson que je préfère, Wild Horses, évidemment, sur l'album Sticky Fingers, 1971. Vous êtes sur France Inter avec Alan Moore, vous écoutez Boomerang.
My hands. Wild
Sur France Inter. Augustin Trapenard.
Rarement ce passage obligé dans Boomerang, si où je décris l'invité, vous savez, aura été aussi facile. On est quelque part entre Gandalf le Gris, Hagrid et le motard Hell's Angel, l'ange de l'enfer avec sa barbe impressionnante, qui possède sûrement son propre écosystème. Est-ce que vous saviez que dans les cheveux de Bob Marley, on a retrouvé plusieurs espèces d'insectes, Alan Moore?
Écoutez, j'ai une anecdote reliée aux insectes là-dessus, sur ma barbe aussi. J'étais assis avec mon copain Steve Moore, dans sa maison à Shooter's Hill, et j'ai senti une sorte de vibration. J'ai dit, j'ai quelque chose là dans la barbe. Et Steve, il a regardé, il a dit, non, non, je vois rien. Et après quelques instants, j'ai tripoté ma barbe pendant quelques instants, un merveilleux papillon camouflé s'est envolé hors de ma barbe. Je ne sais pas combien de temps ça faisait qu'il était là. Peut-être que même il avait fait sa mue là-dedans, mais bon. Mais je dois dire que j'ai, disons, une relation embarrassante, un amour embarrassant de mon rituel du bain du matin. Je lave mes cheveux, ma barbe tous les jours, je la parfume délicatement, et donc je ne pense pas qu'il puisse y avoir trop d'insectes dans ma barbe.
L'écrivain et scénariste anglais Alan Moore, invité de Boomerang ce matin pour son livre Jérusalem, qui vient de paraître dans une très belle traduction de Claro aux éditions Inculte, un roman où vous conjuguer la ville de Northampton à tous les temps, à toutes les personnes, à tous les modes. Et ce dont atteste ce livre, c'est quand même d'une jouissance à raconter des histoires. Comment est-ce qu'il est né, ce goût pour le récit ?
Je pense que ça a probablement quelque chose à voir avec mes années, mes premières années de formation sur Andrews Road. Le fait est que nous ne pouvions pas nous permettre d'acheter beaucoup de jouets. Et donc, la conséquence, c'est que j'ai dû développer une imagination pour compenser tous ces manques de stimulation physique. Nous avions très peu de télévision.
Est-ce que vous lisiez ? Est-ce que vous aviez des livres ? Quelles sont les lectures qui ont été formatrices ?
J'ai commencé à lire très tôt, même avant que j'aille à l'école. Une fois à l'école, à l'âge de 5 ans, j'ai soudain découvert le concept de bibliothèque, qui était un palais de rêves et d'informations.
À vous entendre, c'est vraiment pendant l'enfance que tout se joue. Qu'est-ce qui reste de l'enfant quand vous écrivez, Alan Moore ? Est-ce qu'écrire, c'est pas rester enfant pour toujours ?
Je crois que c'est absolument vital. Je ne sais pas si c'est une confirmation ou pas de la théorie que j'ai mise dans Jérusalem. Mais quand j'étais plus jeune, j'essayais de me projeter dans une conscience plus âgée. Quand j'ai commencé la BD Marvel Man, quand j'avais 20 et quelques années, j'ai décidé que le héros serait un homme qui aurait la quarantaine, avec sa crise du milieu de vie, ses doutes, des choses comme ça. Je crois qu'il est vital, en tant que personne plus âgée aujourd'hui, je puisse me relier avec l'enfant qui est en moi, parce que je pense que nous sommes un continuum.
Et ça passe par quoi ? Dans quel état est-ce que vous êtes quand vous écrivez aujourd'hui ?
Le processus de l'écriture est étrange et ça devient de plus en plus mystérieux pour moi, plus je progresse. William Burroughs met en avant une idée que je trouve très opérationnelle. C'est le mot « plante ». Quand vous écrivez un mot, ce mot suggère le mot « avenir », le mot suivant. Donc, il y a une plante, mot, qui croît, qui grandit. Je trouve que ça, c'est très semblable à la façon dont je me sens moi lorsque j'écris. Je suis très conscient aussi de la couleur des mots. Ça aussi, ça suggère quel sera le mot suivant. De cette façon de considérer les choses, un écrivain ou un artiste est un petit peu rétrogradé. Il est moins que le merveilleux démiurge qui crée des mondes à partir du néant. Non, ils deviennent une sorte de véhicule à travers lequel les idées naissent d'elles-mêmes.
J'ai envie de lire un extrait de votre Bible, Alan Moore, puisqu'il s'agit presque d'une Bible. Jérusalem, page 834. « Je sais que je suis un texte. Je sais que vous me lisez. C'est la plus grande différence entre nous. Vous ne savez pas que vous êtes un texte. » Vous êtes un texte, vous?
Mais nous sommes tous textes, ne sommes-nous pas? Nous sommes tous des récits. C'est comme ça que nous faisons l'expérience de notre vie. Nous formons nos vies en récits. Nous faisons des montages. Toutes nos vies sont des fictions que nous nous racontons.
Mais j'ai l'impression que ce passage que je viens de vous lire, il contient une sorte de manifeste littéraire, comme si la littérature devait nécessairement nous sortir de nous-mêmes. Qu'est-ce que peut la littérature? Qu'est-ce que peut la fiction pour vous, Alan Moore?
I would say that we could divide the
On pourrait diviser la réalité entre ce qui existe et ce qui n'existe pas. Et les deux composantes sont également importantes pour notre réalité. La fiction et le factuel sont dans une alliance codépendante. L'un ne peut pas exister sans l'autre. Et peut-être que toute la civilisation humaine peut être considérée comme notre première histoire de science-fiction. Une histoire que l'on a commencé à nous raconter à nous-mêmes dans les grottes. Et puis, comme ces idées ont grandi, sont devenues des fictions, elles sont devenues aussi un désir de les débarrasser de la fiction et de les faire advenir dans le monde qui nous entoure. Chaque élément de cette pièce dans laquelle nous sommes assis, du langage, des langages dans lesquels nous parlons, tout élément a commencé sa vie dans l'imaginaire de quelqu'un. Tout a commencé en tant que fiction. Et ça a voyagé à travers un chemin mystérieux jusqu'à ce qu'elle devienne un fait, quelque chose de réel dans le monde matériel. Nos politiques, nos émotions, tout. Je ne pense pas que le monde sans fiction est possible.
Merci infiniment à Alan Moore de nous avoir reçus ici à Northampton et d'être venu par la même occasion faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Jérusalem vient de paraître aux éditions Incultes dans une traduction de Claro. C'est un voyage fascinant, hallucine, mystique, dans le temps et dans l'espace. C'est évidemment le grand roman étranger de cette rentrée, à mon sens, et on s'en réjouit tout de suite. Celle qui nous réjouit chaque matin par son humeur aimable, Sonia De Villers, juste après ça.
Si la so, 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 si souci, lance le SOS. S'il est là, souci, lance Oli et ça.
Et le lance la souci, c'est là.